Bonjour, Jean-Claude Dissali pour la LEPO, Occitanie, délégation territoriale Aveyron. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais vous parler des corvidés, de la famille des corbeaux. Donc, les corvidés sont des passereaux de taille moyenne à grande, et c'est dans cette famille des corvidés que se trouvent les plus grandes espèces de passereaux, quasiment 70 cm de longueur. Les particularités, c'est que tous ces corvidés, ils ont un bec qui est assez fort, ils ont des pattes robustes. Une majorité d'entre eux a un plumage sobre, souvent noir, parfois gris, parfois blanc et noir, on va voir ça. Et dans les parties noires, il y a souvent des reflets irisés. Mais il y a aussi dans cette famille des corvidés des oiseaux qui sont plus colorés, avec du vert, avec du bleu. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. On les rencontre sur tous les continents, excepté le continent antarctique, et on ne les trouve pas non plus dans le sud de l'Amérique du Sud. Ils occupent tous les habitats, du désert à la forêt, de la plaine à la montagne, et certains se sont très bien adaptés au milieu urbanisé. Alors on dit des corneilles, des corbeaux, que ce sont des oiseaux intelligents. C'est vrai qu'on peut très bien les apprivoiser assez facilement, et on a démontré qu'ils étaient capables de jouer aussi. Donc pratiquer du jeu, c'est un signe d'intelligence. Particularité aussi de tous ces corvidés, c'est que tous construisent des nids très fignolés, avec toujours une base branche brindille. Mais je vais vous parler plus particulièrement des corvidés que l'on a chez nous, corbeau, corneille, chouka, geai, pie, voilà pour les plus communs. Alors je commence par la corneille noire, qui est vraiment le corvidé le plus commun, celui qu'on rencontre partout, que beaucoup de gens appellent le corbeau. Donc c'est la corneille noire, elle mesure environ 45 à 50 cm de longueur, elle a une envergure qui approche le mètre. C'est le corvidé typique avec le plumage entièrement noir, mais qui a des reflets irisés. Chez nous, la corneille, elle est présente partout, du bord de rivière jusque sur les montagnes, sur l'Aubrac. En saison de reproduction, les oiseaux sont par couple et les couples nichent isolément les uns des autres. Mais pour s'alimenter, ils peuvent se regrouper et se retrouver. Les regroupements sont beaucoup plus fréquents à l'automne et durant l'hiver. On peut voir des rassemblements de plusieurs dizaines d'individus, voire des fois plusieurs centaines, dans les grands champs, dans les cultures. Voilà. Les corneilles, l'hiver, elles dorment en dortoir, qui peuvent rassembler aussi plusieurs centaines d'individus. Et elles peuvent venir de très loin, donc pour aller tous les soirs au même dortoir. Les dortoirs sont dans les arbres. La corneille noire affectionne les espaces agricoles, quel que soit l'assolement et le mode de gestion. Elle est partout, aussi bien en agriculture intensive qu'extensive, en monoculture comme en polyculture, les paysages ouverts ou les paysages bocagers. Mais on ne la rencontre pas dans les forêts denses, elle est surtout en lisière des forêts. Les surfaces toujours en herbe, naturelles ou non, les prairies de fauche, les pâtures, les pelouses, les steppes, tout ça lui est très favorable. Elle ne passe pas inaperçue car elle est très vocale. Sa voix est assez désagréable pour notre oreille humaine. On ne peut pas parler de chant chez les corvidés, mais plutôt de cris assez divers associés au rapport entre individus. Donc au niveau alimentation, la corneille noire peut être qualifiée d'omnivore. Donc elle mange un petit peu de tout, mais elle est avant tout prédatrice et nécrophage. Nécrophage, ça veut dire qu'elle est charognarde. Concernant le premier aspect, il n'est qu'à la regarder faire sur le terrain ou à analyser ses pelotes de réjection. Parce qu'en effet, comme pour les rapaces, la corneille recrache par la bouche les restes indigestes des invertébrés et même des petits vertébrés qui composent son régime. On y trouve toutes sortes d'insectes, en particulier des coléoptères. On voit qu'il y a des coléoptères parce qu'il y a les élytres. Les élytres ne sont pas digestibles et du coup on les voit. Elles consomment aussi énormément de lombriques. Donc c'est pour ça aussi qu'on les voit vraiment beaucoup sur les champs. Concernant l'aspect nécrophage, charognard, il n'y a qu'à la regarder faire sur les bords de route. Elle se nourrit facilement des cadavres des animaux tués par les voitures. En fait, de même que les milans, elle peut aussi chercher sa nourriture derrière les faucheuses à la fenaison ou derrière les charrues lors des labours. On l'accuse également, à juste titre, malheureusement, de piller les nids des oiseaux à l'absence des adultes. Voilà, mais pour être complet, faut pas ignorer qu'elle a une part végétale dans son régime qui est assez importante. Elle mange des fruits, des cerises par exemple, et certaines graines grasses comme les noix qu'elle sait casser. Elle a l'habitude de cacher de la nourriture, c'est le cas des noix. Elle peut les retrouver en cas de disette et pendant l'hiver. Cela lui permet de subsister pendant les mauvais jours. Et pour les provisions qu'elle ne retrouve pas, ben ce comportement contribue à la dissémination des graines et donc à la pousse de nouveaux arbres. La nidification de la corneille noire est arboricole, donc elle niche sur les arbres. Le nid est en général assez haut. Il est construit par le couple et comme chez tous les corvidés, donc il a une assise de brindilles, de petits rameaux. La coupe est profonde, bien garnie d'éléments doux, très divers, qui constituent un lit très douillet avec des radicelles, du crin végétal, des herbes, des feuilles, des plumes, de la laine de mouton, des papiers, des forêts, des ficelles. C'est le mâle qui apporte les matériaux et c'est la femelle qui les arrange à son goût. Mi-avril, elle pond 3 à 5 œufs, le plus souvent 4, qui sont vert bleu, tachés de brun. Ils ressemblent à des gros os de merle. L'incubation est assurée par la femelle pendant une vingtaine de jours. Elle est nourrie au nid par le mâle, surtout au début. Les poussins sont couverts d'un duvet sombre. Ils mettent leur plumage noir par la suite. Et ils sont nourris par les deux parents pendant 6 semaines au nid et ensuite ils s'envolent. Mais ils continuent d'être nourris même après l'envol. La corneille noire est un oiseau très commun, absolument pas menacée pour l'instant. Elle est même en augmentation numérique en bien des endroits, car elle s'est parfaitement adaptée aux activités humaines qui lui procurent une ressource abondante. Sa prédation, dirigée vers les élevages de volailles, vers les élevages de gibier, lui a valu en France d'être classée nuisible. Et de ce fait, donc, elle peut être détruite en tout temps. Elle ne fait pourtant que jouer son rôle, ou le rôle que lui a confié la nature. Le problème, c'est qu'elle a que peu d'ennemis pour limiter sa population. De nos jours, il n'y a que vraiment l'autour des palombes qui la capture. Et l'autour des palombes, c'est un rapace qui est quand même peu commun et très localisé, alors que les corneilles sont nombreuses et elles sont partout. Après la corneille, je vous parle du grand corbeau. Le grand corbeau, c'est vraiment le grand modèle de la corneille noire, car il est aussi complètement noir. Mais lui, il fait 70 cm de long, près d'1,20 m d'envergure. Il est vraiment très, très, très costaud. Et il pèse un bon kilo, voire des fois certains individus jusqu'à 1,5 kg. Il est aussi massif et même plus lourd qu'une buse variable. Et on le repère généralement à son cri assez particulier. On le repère aussi à sa silhouette. Elle est assez particulière parce qu'il a la queue cunéiforme, c'est-à-dire que l'érectrice centrale, l'érectrice étant les plumes de la queue, l'érectrice centrale sont plus longues que les latérales, donc ça lui donne une allure un peu particulière. Et en plus, c'est un très bon planeur. Il sait utiliser les courants thermiques, il peut s'élever très haut en décrivant des orbes, en décrivant des cercles. Et parfois, on le voit voler très très haut avec des rapaces. Quand il est posé pas trop loin, on peut voir son bec très fort et très puissant. Le grand corbeau, c'est un généraliste. Il vit dans une variété d'environnements très différents, de la toundra à la forêt boréale, dans les pays arides, semi-arides, dans la steppe, moyenne et haute montagne bien sûr, mais aussi sur les côtes, sur les zones agricoles. C'est un oiseau rupestre, mais il peut parfois, c'est-à-dire qu'il niche dans les rochers, dans les falaises, mais parfois il niche dans les arbres. Dans la mesure du possible, quand même, il met sa priorité sur les falaises et les rochers, mais il peut aussi construire sur des grandes tours, sur des châteaux, c'est plus rare. Chez nous, on le rencontre dans toutes les grandes vallées où il y a des falaises ou des grands rochers, donc vallée du Lot, vallée de la Dordogne, vallée du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de la Dourbie, etc. Au niveau alimentation, il est surtout nécrophage, il est surtout donc charognard. Il consomme les animaux percutés par les voitures, mais aussi les animaux morts dans la nature. Il apprécie particulièrement les placentas des bêtes qui mettent bas en pleine nature. C'est une espèce sédentaire et monogame. Monogame, c'est-à-dire qu'il reste fidèle à... Donc un seul partenaire et il reste fidèle toute leur vie. Le grand corbeau commence à se reproduire à l'âge de 3 ans. La saison de reproduction commence en fin d'hiver, avec des démonstrations aériennes très très intéressantes. Le grand corbeau est capable de faire des vrilles donc, et de passer sur le dos. Voilà, donc il réoccupe très rapidement son territoire et il le défend. Il est très très démonstratif. Donc il construit son nid sous un surplomb, dans une fissure, un trou, une vire, etc. Mais toujours bien abrité. Donc un nid très sophistiqué. La femelle pond 4 à 6 œufs, des œufs un peu pâles, tachetés, qu'elle couve seule pendant une vingtaine de jours environ. Elle est nourrie par le mâle pendant ce temps. Les poussins ils sont couvés à l'éclosion, bien sûr, pendant quelques temps, tant qu'ils ont un petit duvet qui est encore maigre. Puis après, au fur et à mesure qu'ils mettent des plumes, les parents les couvrent de moins en moins. Les parents les nourrissent en régurgitant de leur poche de nourriture dans la gorge, donc directement dans la gorge des poussins. Les jeunes quittent le nid vers l'âge de 5 semaines. Le grand corbeau n'est pas une espèce en voie de disparition. Il a une distribution très large et est souvent localement assez commun, surtout s'il y a des falaises dans la zone. C'est une espèce protégée, bon, mais qui est très vulnérable à l'utilisation des empâts empoisonnés, puisque comme il est charognard, s'il trouve des cadavres empoisonnés, bien sûr, comme tous les animaux qui peuvent en consommer, la buse, le milan, les vautours, les renards, les chiens, ça peut être très très préjudiciable pour eux. Il n'a pas de prédateur naturel, sauf le hibou grand-duc dans les zones rocheuses qui peut le capturer. Vous nous rejoignez, donc vous écoutez à Tire-d'aile l'émission de la LPO Délégation Territoriale Aveyron. Donc aujourd'hui, je vous parle des corvidés. Donc je vous ai présenté la corneille noire et le grand corbeau. Et maintenant, je vous présente le troisième, donc le chouka des tours. Le chouka, c'est le plus petit de nos corvidés noirs. Il mesure maximum 39 cm de longueur. De loin, il peut paraître complètement noir, mais à bonne lumière, on peut voir que le corps est plutôt gris, noirâtre, et alors que la calotte, les ailes et la queue sont franchement noires. Le chouka des tours est un oiseau des espaces ouverts, de plaine, avec arbres épars. Ce n'est pas du tout un forestier. Le chouka des tours est un oiseau sociable, donc il vit en grande bande. Il est vif et bruyant. On le voit rarement seul. Ce qui frappe d'emblée quand on observe une troupe de chouka en vol, c'est son organisation. On s'aperçoit que les oiseaux forment des binômes. Les couples sont nettement distincts. Le chouka est en effet monogame et les couples sont pérennes, comme chez beaucoup d'autres corvidés d'ailleurs. Dès la fin de la reproduction, ils passent la nuit ensemble dans de grands arbres qu'on appelle des dortoirs, par sécurité contre les prédateurs. Voilà. De tels dortoirs peuvent regrouper des centaines de corneilles et de choukas, et souvent ils se rassemblent. Et donc ils n'hésitent pas à utiliser les parcs urbains comme dortoirs, parce que c'est des zones où ils sont relativement protégés. On a de grosses colonies maintenant dans nos villes. Ils nichent dans les bâtiments, les clochers, les cheminées, ce qui peut poser problème quand les cheminées sont actives ou quand on veut les réactiver, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, le chouka a été absent de pas mal de villes. Hein. Et maintenant, on le voit vraiment, sa population s'est beaucoup développée. Le chouka est un omnivore, hein, comme beaucoup d'autres corvidés. Mais son régime est principalement végétarien. Des graines diverses, des baies, des jeunes pousses. Et puis, comme beaucoup d'oiseaux, il est plus carnivore en période de reproduction, puisque pour nourrir ses jeunes, il a besoin de protéines, donc il capture beaucoup d'insectes au sol. Tous les gros insectes disponibles peuvent être capturés. Donc, c'est une espèce monogame, semi-coloniale, cavernicole pour la nidification, ça veut dire qu'il va nicher dans des trous. Chez nous, les colonies sont constituées de quelques dizaines d'oiseaux, voire quelques centaines dans quelques grandes villes comme Cahors ou Albi ou Rodez même. Et la taille du nid dépend de la taille de la cavité. Quoi. Si la cavité est très grande, il va amener énormément de branches. Si elle est toute petite, il en amènera moins, mais il en amènera toujours. Donc la femelle pond en général 4 œufs qui sont couvés 18-19 jours. Les jeunes sont nourris par les deux parents et ils s'envolent vers l'âge d'un mois. Après quoi, on les retrouve tous rassemblés, ils sont grégaires. Et on les voit se déplacer toujours en vol de plusieurs dizaines d'individus. Ce n'est pas une espèce menacée, il est assez commun en bien des régions. Il est en déclin dans certaines zones et dans certains pays européens, mais ce n'est pas le cas chez nous. Alors pour parler des corvidés qui ne sont pas complètement noirs, on en a un qui est très commun chez nous, c'est le jet des chaînes. Donc contrairement à la majorité des autres membres de la famille, donc il a un plumage coloré qui attire le regard. On le reconnaît d'ailleurs assez facilement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais chez les corvidés, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le mâle et la femelle. Tous les plumages mâle-femelle se ressemblent. Chez le jet, la plus grande partie du corps est d'un brun beige, nettement nuancé de rose un peu vineux ou de roussâtre. La tête est la plus vivement colorée, avec les joues plus rousses. Elle contraste avec le manteau et les scapulaires, les plumes du dessus du dos, qui sont plus pâles. La face donc de la tête est blanchâtre, avec des moustaches noires très très nettes sous les yeux. Et après, il a des fines stries noires sur les plumes du front. Et l'avant de la calotte, cette partie, l'oiseau est capable de la hérisser quand il est excité. Donc on dirait presque qu'il a une huppe. Et l'iris des yeux est blanc bleuté. Le bec est assez court, il est noir et il est fort, comme chez tous les corvidés. L'aile est majoritairement noire. Mais c'est vrai qu'on le voit bien, surtout en vol. Quand l'aile est fermée, on perçoit surtout à l'avant une tache bleu vif qui frappe. Comme pour tous les corvidés, on ne peut pas parler de chant pour le jet des chaînes, mais il a un répertoire vocal très riche. Il n'est pas avare de ses cris la plupart du temps, et on le repère d'ailleurs très souvent à ses cris, pareil, très peu agréable pour l'oreille humaine. Mais il faut être très méfiant parce que le jet des chaînes est un très très bon imitateur. Il imite plein d'autres oiseaux, même des animaux. Il sait imiter le miaulement du chat, le cri de la buse variable. Il faut être quand même très, très attentif quand on entend des cris un peu bizarres parce que lui, il est capable d'en faire. Donc il est, contrairement aux autres corvidés qu'on a vus précédemment, il est plutôt forestier. Il est monogame aussi, il niche par couples qui sont territoriaux et qui se partagent l'espace forestier. Leur saison de reproduction commence en mars. À ce moment-là, ils peuvent faire beaucoup de cris, de manifestations collectives bruyantes, gestuelles, vocales, ils se poursuivent. Les couples se forment à ce moment-là, puis après ils s'isolent pour la reproduction. Et à ce moment-là, en reproduction, ils deviennent très, très discrets. Le nid est souvent donc, dans un arbre en forêt, assez haut. D'habitude à plus de 3 mètres, souvent contre le tronc au départ d'une branche. La femelle pond 5 à 7 œufs. Les œufs sont typiquement comme ceux des corvidés, vert pâle ou tirent un peu vers le bleu, avec des taches vert sombre à gris vert. L'incubation dure 16-17 jours. Les poussins séjournent au nid pendant 3 semaines. Ils sont nourris par les deux parents. Et après, ils deviennent indépendants à l'âge de 7-8 semaines. Les jets ne font qu'une nichée par an. Comme pour tous les corvidés, ils sont très omnivores. Quoi. Ils mangent un petit peu de tout. Des graines, bien sûr. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le jet des chaînes, car il est très friand de glands, qui constituent près de 50% de son alimentation, surtout l'automne et l'hiver. Il cache beaucoup de glands pour passer sa saison d'hiver aussi. Mais bien d'autres graines aussi, comme les faines et les graines de conifères en altitude, et des graines de céréales après la moisson. Ils mangent aussi des fruits à la saison. Et il peut venir au poste de nourrissage hivernal, donc venir aux mangeoires. Il aime bien les graines de tournesol. Au printemps, la partie animale prédomine dans son régime, car pour élever ses petits, il a besoin aussi d'insectes, de larves, etc. Le gai des chênes est une espèce commune, non menacée. Voilà, il y a des fluctuations annuelles assez importantes. Et des années, il y en a beaucoup, des années, il y en a moins. Mais on a aussi, pendant l'hiver, des populations migratrices qui viennent du nord et qui peuvent rester chez nous donc, pendant tout le temps d'hiver. La pie bavarde, c'est le dernier des corvidés que je vous présente aujourd'hui. Tout le monde la connaît du premier coup d'œil à son plumage noir et blanc. Voilà, elle a toutes les caractéristiques des autres corvidés. On dit que la pie jacasse, on l'appelle bavarde, parce qu'effectivement, elle, on l'entend très très souvent. Voilà, la pie bavarde n'est pas une espèce en diminution, ni n'est pas une espèce protégée, elle n'est pas du tout menacée, elle est même plutôt localement en expansion. Bon, elle a mauvaise réputation, car c'est vrai qu'elle est friande des œufs et des poussins des autres espèces d'oiseaux. Voilà. Donc, elle est classée nuisible, elle peut être tirée toute l'année, mais elle est extrêmement futée, elle n'est pas facile à piéger ni à tirer au fusil. Donc, parmi les autres corvidés, on peut rencontrer le crave à bec rouge, qui est un corvidé tout noir, mais avec des pattes rouges et un bec rouge arqué. On le rencontre notamment dans les gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie. Voilà, on peut aussi le rencontrer sur les falaises en bord de mer et en montagne. Il y a aussi le chocard à bec jaune, mais lui, il n'est pas du tout visible chez nous. Et il est vraiment inféodé aux hautes montagnes, comme les Pyrénées et les Alpes. Et puis, il fréquente les parties à plus de 2500 ou près de 3000 mètres. Il ressemble beaucoup au crave, il est tout noir. Mais il a un bec droit et de couleur jaune, mais il a les pattes rouges. Voilà pour cette présentation des principaux corvidés de notre région. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.